Journal d'un écrivain, 1876, mars. Chapitre 1. La centenaire. J'ai été en retard toute la matinée, me racontait une dame, ces jours-ci. Je n'ai pu mettre le pied dehors que vers midi. Et c'était comme un fait exprès, j'avais des masses de choses à faire. Entre deux courses, à la porte d'une maison d'où je sortais, j'ai rencontré une vieille femme qui me parut horriblement âgée. Elle était toute courbée et se soutenait sur un bâton. Cependant, je n'avais encore aucune idée de son âge véritable. Elle s'installa sur un banc près de la porte. Je la vis bien, mais trop peu de temps. 10 minutes après, je sortis d'un bureau situé tout auprès et me dirigeai vers un magasin où j'avais affaire. Je retrouvai ma vieille femme, assise à la porte de cette nouvelle maison. Elle me regarda, je lui souris. « Je vais faire une autre commission vers la perspective Nevski. Je revois ma bonne femme assise à la porte d'une troisième maison. Cette fois, je m'arrête devant elle, me demandant « Pourquoi s'assoit-elle ainsi à la porte de toutes les maisons ?»« Tu es fatiguée, ma bonne vieille, » lui dis-je. « Je me fatigue vite, petite mère. Il fait chaud, le soleil est fort. Je vais dîner chez mes petits-enfants. »
« Alors, tu vas dîner, grand-mère ?»«
Oui, dîner, ma chère, dîner. »«
Mais tu n'arriveras jamais ainsi. »«
Oui, j'arriverai. Je marche un peu, je me repose, je me relève, je marche encore un peu, et ainsi de suite. »
La bonne femme m'intéresse. Je la regarde. C'est une petite vieille proprette, vêtue d'un costume suranné. Elle a l'air d'appartenir à la classe bourgeoise. Elle a un visage pâle, jaune, la peau desséchée et collée aux os. Ses lèvres sont décolorées, on dirait une momie. Elle reste assise, souriante, le soleil lui dore la figure.
« Tu dois être très vieille, grand-mère, » lui dis-je en plaisantant.
« 104 ans, ma chère, 104 ans, pas plus. »
Elle plaisante à son tour. « Et toi, où vas-tu ? » me demande-t-elle, et elle sourit encore. Elle est contente de causer avec quelqu'un.
« Vois-tu, grand-mère, j'ai été acheter des souliers pour ma fillette, et je les porte chez moi. »«
Oh, ils sont petits, les souliers. C'est une bien petite fille. As-tu d'autres enfants ?»
Et toujours elle me regarde en souriant. Ses yeux sont un peu éteints, quelque chose y brille encore cependant, comme un rayon faible, mais chaud.
« Grand-mère, prends cette monnaie, tu t'achèteras un petit pain. »«
Quelle idée de me donner ça ! Mais je te remercie, je garderai ta piécette. »«
Excuse-moi, grand-mère. »
Elle prend la pièce de monnaie, mais par politesse, par bonté de cœur. Peut-être même est-elle contente que non seulement on lui parle, mais encore qu'on s'occupe d'elle affectueusement.
« Eh bien, adieu, » dis-je. « Ma bonne vieille, je souhaite que tu arrives bientôt chez les tiens. »«
Mais oui, j'arriverai, ma chère, j'arriverai. Et toi, va t'en voir ta petite fille. »
Elle oubliait que j'ai une fille et non une petite fille. Il lui semblait que tout le monde avait des petites filles. Je m'en suis allée, et en me retournant, je l'ai vue qui se levait avec peine, s'appuyait sur son bâton et se traînait par la rue. Peut-être se sera-t-elle arrêtée au moins 10 fois encore avant d'arriver chez ses petits-enfants où elle va dîner. Une étrange petite vieille. C'est, comme je le disais, un de ces matins derniers que j'ai entendu ce récit, ou plutôt cette impression d'une rencontre avec une centenaire. Il est rare de voir des centenaires aussi pleins de vie. Aussi ai-je repensé à cette vieille. Et ce soir, très tard, après avoir fini de lire, je me suis amusée à me figurer la suite de l'histoire. Je l'ai vue arrivant chez ses petits-enfants, ou arrière-petits-enfants. Ce doit être une famille de gens rangés, convenables. Autrement, elle n'irait pas dîner chez eux. Peut-être loue-t-il une petite boutique, une boutique de coiffeur, par exemple.
Évidemment, ce ne sont pas des gens riches, mais enfin, ils doivent avoir une petite vie organisée, ordonnée. Voyons, elle sera arrivée chez eux vers 2 heures. On ne l'attendait pas, mais on l'a reçue cordialement. « Ah, voici Maria Maximovna. Entre, entre, de grâce, servante de Dieu !» La vieille est entrée en souriant toujours. Sa petite fille est la femme de ce coiffeur que je vois là, un homme d'environ 35 ans, paré d'une redingote constellée de taches de pommade. Je n'ai jamais vu de barbier d'un autre style. 3 petits-enfants, un garçon et 2 fillettes, accourent vers la grand-mère. Ordinairement, ces vieilles, extraordinairement vieilles, s'entendent très bien avec les moutards. Elles ont une âme semblable aux âmes d'enfants, sinon pareille. La vieille s'est assise. Il y a quelqu'un chez le coiffeur, un homme d'une 40aine d'années, un visiteur de connaissance. Il y a aussi un neveu du barbier, un garçon de 17 ans, qui veut entrer chez un imprimeur. La vieille fait le signe de croix, s'assied, regarde le visiteur. « Oh, que je suis fatiguée! Qui est là, chez vous ?»« C'est moi. Vous ne me reconnaissez pas, Maria Maximovna ?» fait le visiteur en riant. « Il y a 2 ans, nous devions toujours aller chercher des champignons ensemble dans la forêt. » « Ah, c'est toi, je te reconnais, farceur. Seulement, veux-tu croire que je ne me rappelle plus ton nom ? Pourtant, je sais bien qui tu es, mais c'est la fatigue qui me brouille les idées. » « Vous n'avez pas grandi depuis la dernière fois, » plaisante le visiteur. « Veux-tu te taire, polisson ? » Et la grand-mère se met à rire, très amusée dans le fond. « Tu sais, Maria Maximovna, je suis un bon garçon. » Il est toujours agréable de causer avec de braves gens. Avez-vous fait faire le paletot pour Serioja ? Elle montre le neveu. Celui-ci, garçon robuste et sain, sourit largement et s'approche. Il porte un nouveau paletot gris qu'il a encore du plaisir à exhiber. L'indifférence viendra peut-être dans une semaine. Mais en attendant, il en est encore à contempler à chaque instant les parements, les revers, à se regarder dans la glace avec son vêtement neuf. Il ressent pour lui-même un certain respect en se voyant si bien habillé. « Tourne-toi donc !» crie la femme du barbier. « Et toi, regarde, Maria Maximovna, un beau paletot, hein, et qui vaut 6 roubles comme un copec !» Commander un article à meilleur marché, on nous a dit chez Prokhoritch qu'il valait mieux ne pas même y penser. On s'en serait mordu les doigts après, tandis que ce paletot-ci est inusable. Voyez cette étoffe. Mais tourne-toi donc. Et la doublure, c'est d'une solidité. Mais tourne-toi donc. Enfin, c'est ainsi que l'argent danse et file, Maria Maximovna. Voilà des roubles qui nous ont dit adieu. Oh, la vie est devenue si chère que j'aime mieux ne pas y songer. Ça me ferait de la peine, remarque Maria Maximovna, tout émotionnée et qui ne peut encore reprendre haleine. Allons, allons, il est temps de manger, observe le barbier. Mais tu parais très fatiguée, Maria Maximovna. Oui, petit père, je suis éreintée. Il fait chaud et un soleil. Oh, j'ai rencontré en route une petite dame qui avait acheté des souliers pour ses enfants. « Tu es fatiguée, ma bonne vieille ? » m'a-t-elle demandé. « Prends cette pièce pour acheter un petit pain. » Et moi, disais, j'ai pris la pièce. « Mais, grand-mère, repose-toi d'abord. Qu'as-tu à étouffer comme cela ? » demande le coiffeur avec empressement. Tout le monde la regarde. Elle est devenue toute pâle. Ses lèvres sont blanches. Elle regarde aussi tous ceux qui sont présents, mais d'un œil plus terne qu'à l'ordinaire. « Voilà du pain d'épices pour les enfants, avec cette piécette !» reprend la vieille. Mais elle est forcée de reprendre haleine. Tous ont cessé de parler pendant quelques secondes. « Qu'y a-t-il donc, grand-mère ? » Le barbier se penche sur elle, mais la grand-mère ne répond pas. Il y a un nouveau silence de quelques secondes dans la pièce. La vieille est devenue encore plus pâle, et c'est comme si son visage avait maigri tout à coup. Ses yeux se voilent, le sourire se fige sur ses lèvres. Elle regarde droit devant elle, mais on devine qu'elle ne voit plus.
« Faut-il aller chercher le pope ?»
demande vivement le visiteur.
« Oui, mais n'est-il pas trop tard ?»
murmure le barbier.
« Grand-mère ! Hé, grand-mère !»
appelle la femme effrayée. La grand-mère demeure immobile, mais bientôt sa tête se penche d'un côté. Dans sa main droite qui repose sur la table, elle tient encore la pièce. Sa main gauche est restée sur l'épaule de l'arrière-petit-fils Mishka, âgé de 6 ans. Il est debout, ne bouge plus, et contemple l'aïeul avec des yeux étonnés.
« Elle est morte !»
prononce tout bas le barbier en faisant le signe de la croix.
« Ah, j'ai vu qu'elle se penchait tout d'un côté !»
fit le visiteur d'une voix très émue et entrecoupée. Il en est tout saisi et regarde les assistants.
« Ah, mon Dieu, qu'allons-nous faire, Makaritch ?»«
104 petites années, ah !» dit le visiteur en piétinant sur place, de plus en plus attendri.
« Oui, les dernières années, elle perdait un peu la tête, »
observe tristement le barbier.
« Mais il faut que j'aille prévenir. »
Et il met sa casquette et cherche son pardessus.
Il n'y a qu'un moment, elle riait, elle était gaie. Elle a encore sa piécette dans la main pour acheter le pain d'épices.
Quelle vie que la nôtre!
« Eh bien, allons, Piotr Stepanitch !» interrompt le barbier.
Ils sortent.
On ne pleure pas, bien entendu.
104 ans, n'est-ce pas? L'hôtesse a envoyé chercher des voisines qui accourent. La nouvelle les a intéressées, distraites. Comme de raison, on prépare le samovar. Les enfants, tassés dans un coin, regardent curieusement la grand-mère morte. Mischa, tant qu'il vivra, se souviendra qu'elle est morte, la main sur son épaule. Quand il sera mort à son tour, personne ne se rappellera plus la vieille qui a vécu 104 ans. Et à quoi bon se la rappeler? Des millions d'hommes vivent et meurent inaperçus. Que le Seigneur bénisse la vie et la mort des humains simples et bons. Chapitre 2. Considérations sur l'Europe. En Europe et partout, c'est la même chose. Les forces sur lesquelles nous comptions pour faire l'Union se sont-elles évanouies comme un vain mirage? Partout la division et les petits groupements. Voilà une question qu'un Russe ne peut s'empêcher de méditer. D'ailleurs, quel est le vrai Russe qui ne pense pas avant tout à l'Europe? Oui, là-bas, tout semble aller encore plus mal que chez nous. Toutefois, en Europe, les raisons qui ont créé les petits groupements sont plus claires qu'en Russie. Mais n'est-ce pas encore plus désespérant? C'est peut-être en ce fait que, chez nous, on ne sait trop bien découvrir où a commencé la désunion, que réside encore un peu d'espoir. On comprendra peut-être à la longue que l'éparpillement de nos forces provient de causes artificielles, provoquées, et qui sait si l'accord ne se refera pas. Mais là-bas, en Europe, aucun faisceau ne se reformera. Tout s'est morcelé en factions, non comme en Russie, mais pour des raisons claires et précises. Là-bas, groupes et unités vivent leurs derniers jours et le savent bien. En tout cas, ils semblent préférer la mort à l'abandon de leurs principes. À propos, tout le monde chez nous parle de la paix. On pronostique une paix durable. On croit entrevoir un horizon clair. On veut reconnaître des signes de paix dans l'établissement définitif de la République en France et dans le rôle joué par Bismarck, qui aurait aidé en sous-main à l'affermissement de ce régime. Beaucoup de journaux croient tout danger de guerre écarté après l'entente des grandes puissances de l'Europe orientale, malgré les troubles de l'Herzégovine. La clé de toute cette question d'Herzégovine se trouve peut-être à Berlin, dans la cassette du prince de Bismarck. Avant tout, on est ravi chez nous de l'établissement de la République en France. Mais, à ce sujet, pourquoi la France demeure-t-elle au premier plan en Europe en dépit de la victoire de Berlin? Le moindre événement français excite en Europe plus d'intérêt et de sympathie que les faits les plus graves qui se passent à Berlin. Sans doute parce que la France a toujours précédé les autres nations dans la marche en avant des idées. Tout le monde croit, sans doute, que la France fera toujours la première quelques pas décisifs. Voilà pourquoi, peut-être, l'individualisme a si nettement triomphé dans ce pays d'avant-garde. La paix générale est, là-bas, absolument impossible et demeurera impossible jusqu'à la fin. En acclamant la République en France, l'Europe semblait dire qu'avec ce régime, toute guerre de revanche avec l'Allemagne devenait invraisemblable. Et pourtant, ce n'est là qu'un mirage, car la République a justement été proclamée pour la guerre, non pas avec l'Allemagne, mais avec un adversaire, un ennemi de toute l'Europe, le communisme. Et c'est sous la République que cet ennemi pourra le plus facilement agir. Tout autre gouvernement lui aurait fait des concessions et ainsi ajourné le dénouement. La République le provoquera au combat. Qu'on ne vienne donc pas affirmer que la République c'est la paix. Quels sont ceux qui se sont déclarés partisans de la République en France? Les bourgeois et les petits propriétaires. Y a-t-il longtemps que ceux-là sont des républicains si fervents? N'étaient-ils pas les premiers à redouter la République? Ils la confondaient avec le communisme, si dangereux pour eux. La Convention, pendant la première révolution, a démembré la grande propriété et enrichi ainsi toute une légion de petits possesseurs terriens. Les a si bien enrichis qu'ils viennent de payer, sans sourciller, une indemnité de guerre de 5 milliards. Mais tout en contribuant à un bien-être temporaire, cette mesure a paralysé pour longtemps les tendances démocratiques, en augmentant exagérément l'armée des propriétaires et en livrant la France au pouvoir illimité de la bourgeoisie, la pire ennemie du peuple. Sans cette mesure, la bourgeoisie n'aurait jamais pu se maintenir à la tête du pays, où elle remplaça ses anciens maîtres, les nobles, tandis que le peuple devenait inconciliable. Cette bourgeoisie a fait dévier les idées démocratiques et les a changées en désir de vengeance. Si la France tient encore bon, c'est sans doute grâce à cette loi de nature qui veut qu'une poignée de neige ne puisse fondre avant un certain temps. Les bourgeois et les naïfs de l'Europe se croient, bien à tort, sauvés. Au fond, toute union a disparu. Une oligarchie n'a en vue que les intérêts des riches. La démocratie ne se préoccupe que des intérêts des pauvres. Quant à l'intérêt universel, personne ne s'en soucie, qu'un certain nombre de rêveurs socialistes et de vagues positivistes qui exaltent des principes scientifiques destinés, d'après eux, à rétablir l'équilibre. Mais il est peu probable que la science soit en état d'entreprendre cette œuvre immédiatement. Est-elle de force à modifier la nature humaine et à prescrire de nouvelles lois à l'organisme social? Je m'abstiendrai pour l'instant d'affirmer que ce problème dépasse les forces de l'humanité. Du reste, la science ne pourrait répondre, et il est clair que le mouvement est dirigé en France, comme partout, par des rêveurs qui sont un peu des spéculateurs. Ces rêveurs ont été dans leur droit en s'emparant de la direction du mouvement, car ils sont les seuls en France à se préoccuper de l'union de tous dans l'avenir. Si bien que c'est à eux que doit passer la suprématie, malgré leur faiblesse actuelle et la connaissance que tout le monde a de cette faiblesse. Malheureusement, à côté de ces idées scientifiques, une autre surgit qui peut se traduire par cette formule trop connue. Ôte-toi de là que je m'y mette. Le premier désir de la masse du peuple, c'est de piller les propriétaires. Mais il ne faut pas trop accuser les pauvres. Les hommes de l'oligarchie bourgeoise les ont tenus dans les ténèbres, et à un tel point que ces malheureux ne se gênent pas pour crier qu'ils deviendront riches et que ce sera grâce au pillage. Toute l'idée sociale est là pour eux. Néanmoins, ils vaincront certainement, et si les riches ne cèdent pas, il pourra se passer des choses terribles. Mais personne ne cédera à temps aux yeux des revendicateurs. Même si on leur donne tout, ils croiront toujours qu'on les trahit et qu'on les vole. Les Bonaparte se sont maintenus en leur faisant espérer une entente avec eux. Ils ont même tenté des réformes peu effectives dans ce sens. Mais tout cela n'était pas sincère. Les gens de l'oligarchie se méfient du peuple, et le peuple ne croit plus en eux. Quant aux monarchistes légitimistes, ils ne peuvent plus offrir à la démocratie qu'un seul remède, le catholicisme, que le peuple ne connaît plus ou ne veut plus connaître. On dit même que parmi les prolétaires, les idées spirites se développent extraordinairement, tout au moins à Paris. Si nous parlons des partisans de la branche cadette, des orléanistes, nous verrons que leur régime est devenu odieux à la bourgeoisie elle-même, bien que les d'Orléans aient été longtemps considérés comme les protecteurs naturels des propriétaires français. Leur incapacité est devenue évidente pour tous. Les propriétaires voulaient pourtant trouver un moyen de salut. Leur instinct les a poussés à choisir la République. Il existe une loi politique, et peut-être naturelle, qui exige que deux voisins forts et proches, quelle que soit leur mutuelle amitié au début, finissent toujours par en venir à un désir d'extermination réciproque. Nous devrions, nous aussi, les Russes, penser à cette question des puissants voisins. Or, de la République rouge, le chemin est court jusqu'au communisme. Et malgré le voisinage, qu'y a-t-il de plus opposé au communisme que la République ? Même la République sanglante de 93. Les républicains mettent la forme républicaine avant tout, même avant la France. C'est la forme qui est tout en République, même si la République s'appelle le Mac Mahona. Le communisme, lui, se moque bien de la forme républicaine. Il nie non seulement toute forme de gouvernement, mais encore l'État et toute la société contemporaine. Les Français, pendant 80 ans, se sont bien rendus compte de cet antagonisme et ont lancé contre l'ennemi son adversaire le plus acharné. La République est bien l'expression naturelle de l'esprit bourgeois. On pourrait même dire que la bourgeoisie française est fille de la République. Et on dira encore que la guerre est loin. Peut-être ne conviendrait-il pas d'en trop souhaiter l'ajournement. Déjà, le socialisme a rongé l'Europe. Si l'on tarde trop, il démolira tout. Le prince de Bismarck le sait. Mais il se fie trop à l'Allemagne, au feu et au sang. Mais à quoi parvient-on ici-bas en mettant tout à feu et à sang ? Chapitre 3 Force morte et force future. On nous dira « En ce moment, il n'y a aucune cause d'inquiétude. Tout est clair, tout est au beau fixe. En France, le Mac Mahona. En Orient, la grande entente des puissances. Partout, des budgets de guerre formidables. N'est-ce pas là la paix ?» Et le pape ? Il va mourir aujourd'hui ou demain. Et alors, que va-t-il se passer ? Le catholicisme romain consentira-t-il à mourir avec lui pour lui tenir compagnie ? Jamais il n'a autant désiré vivre qu'à présent. D'ailleurs, nos prophètes s'inquiètent bien du pape. La question papale ne se pose même pas chez nous. Elle n'existe pas. Et pourtant, le pape est une personnalité immense qui ne renoncera ni à son pouvoir ni à ses rêves en l'honneur de la paix du monde. En faveur de qui y renoncerait-il ? Pour le bonheur de l'humanité ? mais il y a longtemps qu'il se croit au-dessus de l'humanité. Jusqu'à présent, il était l'allié des puissants de la terre et espéra en eux jusqu'aux limites du possible. Mais ces limites sont atteintes, et l'on dit que le catholicisme romain, délaissant les potentats terrestres qui l'ont trahi, va se tourner d'un autre côté. Pourtant, le catholicisme romain a traversé des crises plus graves. En proclamant que le christianisme ne peut se maintenir dans ce monde sans le pouvoir temporel du pape, il a proclamé un Christ nouveau bien différent de l'ancien. Un Christ qui se laisse séduire par la troisième tentation du démon, les royaumes de la terre. Oh, j'ai entendu bien des objections contre cette manière de voir. On m'a dit que la foi et l'image du Christ vivaient encore dans le cœur de mains catholiques, sans altération aucune. Sans doute il en est ainsi, mais chez bien d'autres, la foi primitive s'est modifiée. Rome a bien récemment promulgué un nouveau dogme, issu de la troisième tentation, au moment même où l'Italie unifiée frappait déjà à la porte de Rome. On me fera encore remarquer que le catholicisme a, depuis des siècles, été batailleur et a toujours défendu le pouvoir temporel. Soit, mais auparavant, c'était en secret. Le pape conservait son territoire minuscule, mais il y avait là surtout une allégorie. Aujourd'hui, cependant, qu'on le menace dans sa possession, le pape se lève tout à coup et dit la vérité au monde entier. « Quoi ? Vous avez cru que je me contenterais du titre de souverain des États de l'Église ? Je veux être souverain temporel et effectif. Je suis en effet le roi des rois. C'est à moi qu'appartiennent la terre et le temps et les destinées des hommes. C'est ce que je déclare aujourd'hui par ce dogme de mon infaillibilité. » Ce n'est aucunement ridicule. C'est la résurrection de l'ancienne idée romaine de domination sur le monde. C'est la Rome de Julien l'Apostat qui parle, non plus vaincue, mais victorieuse du Christ. L'armée de Rome, je le répète, a une vision trop nette des choses pour ne pas voir où se trouve la vraie force, celle sur laquelle il convient de s'appuyer. Après avoir perdu ses royaux alliés, le catholicisme va se rejeter sur Démos, sur le peuple. Il possède d'adroits négociateurs, habiles à scruter le cœur humain, de fins dialecticiens et confesseurs. Et le peuple a toujours été simple et bon. Or, en France surtout, on connaît mal l'esprit de l'Évangile, et les habiles psychologues romains apporteront aux Français un Christ nouveau qui consentira à tout, un Christ proclamé au dernier concile impie de Rome. « Oui, mes amis, diront ces psychologues, toutes les questions dont vous êtes préoccupés sont traitées dans ce livre que vos meneurs vous ont volé, et si jusqu'à présent nous ne vous avons pas révélé cette vérité, c'est que vous étiez un peu trop comme de petits enfants. Il n'était pas temps de vous tout dévoiler. Mais voici l'heure venue de l'initiation. Sachez que le pape possède les clés de Saint-Pierre et que la foi en Dieu, c'est la foi en le pape, qui tient, en ce monde, la place de Dieu. Il est infaillible, un pouvoir divin lui est accordé. Il est maître du temps et des destinées. Vous avez cru jusqu'à présent que la première vertu chrétienne était l'humilité. Mais le pape a changé tout cela, ayant tout pouvoir. Oui, vous êtes tous frères, le Christ lui-même l'a dit. Si vos frères ne veulent pas vous admettre chez eux comme frères, prenez des bâtons, entrez de force dans leur maison et contraignez-les à la fraternité. Le Christ a attendu longtemps que vos frères aînés, les débauchés, fissent pénitence. Et maintenant il vous autorise à crier « Fraternité ou la mort ». Si votre frère ne veut pas partager avec vous ses biens, prenez-lui tout, parce que le Christ est là d'attendre son repentir et que le jour de la colère et de la vengeance est venu. Sachez encore que vous n'êtes pas coupable de vos péchés passés plus que de vos fautes futures. Toutes vos erreurs provenaient de votre pauvreté. Si vos chefs vous ont déjà tenu ce langage, ils l'ont fait prématurément. Le pape seul a le droit de parler ainsi. La preuve, c'est que vos chefs ne vous ont mené à rien de bon. Ils vous ont du reste trompé en maintes choses. Ils se fortifiaient en s'appuyant sur vous, mais comptez vous vendre le plus cher possible à vos ennemis. Le pape, lui, ne vous trahira pas. Il n'y a personne au-dessus de lui. Croyez non pas en Dieu, mais en le pape. Lui seul est maître de la terre, et tous ceux qui luttent contre lui doivent périr. Réjouissez-vous, le paradis terrestre sera vôtre de nouveau. Vous serez tous riches, juste par conséquent, puisque vous n'aurez plus rien à désirer, et qu'ainsi toute cause de mal disparaîtra. Le démos acceptera ces propositions agréables. Il acclamera le nouveau maître, qui consentira à tout, heureux d'être débarrassé de meneurs au pouvoir pratique desquels il ne croyait plus. On lui mettra ainsi le levier en main, et il n'y aura plus qu'à soulever. Croyez-vous que le peuple n'appuiera pas sur le levier? On lui rendra la croyance du même coup, et il est évident qu'il sentait un malaise, une angoisse à demeurer sans Dieu. Qu'on me pardonne ma présomption, mais je suis sûr que tout cela s'accomplira nécessairement dans l'Europe occidentale. Le catholicisme se tournera du côté du peuple, abandonnant les grands de ce monde, parce que ceux-ci l'ont, eux-mêmes, abandonné. Bismarck ne se serait pas avisé de le persécuter s'il n'avait senti en lui un ennemi de demain. Et un ennemi terrible. Le prince de Bismarck est trop avisé pour perdre son temps à attaquer un adversaire peu dangereux. Le pape est plus fort que lui. Je le répète, le groupe catholique et papal est peut-être l'une des factions les plus formidables de celles qui menacent la paix du monde. Du reste, tout en Europe est comme sapé. Tout est posé sur une poudrière qui n'attend qu'une étincelle. Et qu'est-ce que cela nous fait? Tout cela se passe en Europe et non pas chez nous. Cela nous fait que l'Europe s'adressera à nous pour que nous la secourions quand sonnera la dernière heure de l'état de choses d'aujourd'hui. Elle exigera notre aide. Elle nous dira que nous faisons partie de l'Europe, que le même état de choses existe chez nous, que ce n'est pas en vain que nous l'avons imitée, elle, l'Europe, depuis 200 ans, jaloux de nous égaler aux Européens, et qu'en la sauvant, nous nous sauverons nous-mêmes. Et ne sommes-nous pas bien mal préparés à trancher de pareilles questions? Ne sommes-nous pas bien déshabitués d'apprécier sainement notre rôle vrai en Europe? Non seulement nous ne comprenons plus de telles questions, mais nous ne les croyons plus possibles. Si vraiment l'Europe nous appelle à son secours, c'est alors, tout à coup, que nous verrons combien nous lui ressemblons peu, malgré nos rêves deux fois séculaires et notre furieux désir de nous européaniser. Il se peut aussi que nous ne comprenions même pas ce que l'Europe exigera de nous, que nous ne sachions comment l'aider. Irons-nous alors écraser l'ennemi de l'Europe et de son ordre de choses en nous servant des procédés du prince de Bismarck, pacifiant par le fer et par le sang? Ah, c'est pour le coup, après un tel exploit, que nous pourrons nous féliciter d'être devenus de vrais Européens. Mais tout cela, ce n'est que dans l'avenir. Tout cela, c'est de l'imagination. Car, à présent, l'horizon est clair, si clair.